La Société des neurosciences aussi est active puisqu'elle édite dans sa lettre une rubrique Histoire des neurosciences depuis quelques semestres déjà, et qui souviendra peut-être un club d'histoire des neurosciences dont nous avons fait une proposition, et la décision devrait être prise le 7 décembre, donc tout prochainement. Au CNRS, on peut citer le comité pour l'histoire du CNRS, qui s'intéresse donc à tous les aspects historiques du CNRS, qui est dirigé par André Caspi, et qui a délégué parmi nous une personne, Denis Guttlebet, qui devrait arriver, qui n'est pas encore là, qui est un historien spécialiste de l'histoire sous l'occupation et sous la libération, et qui s'intéresse à ce titre, à l'histoire de l'Institut Marais. Le programme, le CNRS a aussi un programme d'études, un programme Histoire des savoirs, qui est joint avec le ministère, dans lequel un projet spécifique, dirigé par Claude Debru depuis plus de 2 années, concerne les développements des neurosciences françaises dans le contexte international entre 1945 et 1975. Ce programme est mis en œuvre notamment par Céline Chérissy, qui est présente ici, qui participera à la table ronde tout à l'heure, qui est spécialiste de la neurologie au XVIIIe et au XIXe siècle, qui s'intéresse également aux aspects de neurologie clinique et fondamentale au XXe siècle. Il y a aussi David Roman, qui est historien et théoricien de la psychologie au XIXe siècle, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, qui en raison d'un colloque en Suisse. Enfin, cette journée donc est organisée par deux laboratoires CNRS, donc le laboratoire où nous trouvons, dirigé par Jean-Marie Annie, que vous avez entendu, et le laboratoire RESEIS, dont le sigle est un peu compliqué, j'ai de nombreuses questions à ce sujet, qui est le laboratoire de recherche épistémologique et historique des sciences exactes et des institutions scientifiques, et qui est peut-être sur Paris le laboratoire qui regroupe le plus de scientifiques qui se sont tournés vers l'histoire des sciences. En effet, on peut dénombrer 4 ou 5 chercheurs CNRS qui sont rattachés à des commissions scientifiques et qui sont néanmoins, qui exercent néanmoins dans ce laboratoire sciences humaines, donc histoire des sciences. Alors ce laboratoire est représenté aujourd'hui par Alain Leplège, qui est ici présent et qui donc remplace Karine Chemla, qui dirige justement un colloque sur le programme Histoire des savoirs qui a débuté hier, qui a lieu encore aujourd'hui, qui se poursuivra demain, et dans lequel nous devrons rendre compte de nos activités, y compris de cette journée. Alors je tiens à remercier également Alain Berthoz pour sa participation financière et pour son soutien, bien qu'il n'ait pu se libérer aujourd'hui en raison d'une réunion ministérielle. Monsieur Alain Berthoz, Monsieur Jacques Glowinski également, que je remercie, et qui n'a pas pu se joindre à nous. Je voudrais remercier tous les intervenants dont les frais, malheureusement les frais de transport et de voyage, ne pourront pas être remboursés entièrement en raison de notre maigre budget, puisqu'en partie la Société des neurosciences n'a pas accepté notre demande d'aide financière. Enfin, je tiens à excuser Michel Mulders, qui aurait bien souhaité être là parmi nous, mais qui est malade aujourd'hui, qui a une grippe. Enfin, messieurs Alain Vauda, Jean-Marc Israël et madame Omnes avaient souhaité participer à cette journée, mais finalement ne pourront pas être là parmi nous. Alors, je voudrais enfin remercier tout le monde, tous les gens qui ont montré un intérêt vif et immédiat pour cette journée. Et tous ensemble, nous allons pouvoir mieux comprendre ce qu'a été l'Institut Marais et dévoiler certains facteurs de son évolution qui sont peut-être, en ce qui concerne certains, encore actifs aujourd'hui. Alors, nous allons commencer. Je passe tout de suite la parole à M. Buzer, qui va présider cette première session. Merci.
Merci, Jean-Gaël. Je voudrais d'abord dire que je suis très ému et d'avoir l'honneur de présider cette première séance. J'espère que vous m'entendez, parce que de présider cette première séance de ce sympathique programme sur l'Institut Marais, journée d'études. Nous regrettons évidemment des absences, ça c'est clair, c'est toujours comme ça. Mais enfin, Jean-Gaël Barbara, vous avez bien fait, vous avez bien travaillé, mon ami, bravo. Je peux dire que cela. Et je vous salue tous, ceux qui me connaissaient et ceux qui ne me connaissaient pas. connaîtrons aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à John Mackenzie. John Mackenzie est un curieux bonhomme, comme vous allez voir. C'est quelqu'un qui est australien, qui est de Melbourne, mais qui, comme par hasard, se trouve assez souvent chez nous en France. Il faut croire qu'il aime la France. C'est tout de même pas, vous n'êtes tout de même pas un sous-développé. Allez, Mackenzie, John, allez, je te donne la parole. Il nous parlera, de la constitution du centre CNRS d'Alfred Fessard, aspect institutionnel. J'en oublie l'essentiel. Merci.
Merci, Pierre. Je peux projeter. C'est pas un problème. Ah oui, oui, peut-être. Oui, 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 je comprends. J'avais l'habitude de projeter dans une théâtre beaucoup plus grand que ça. Mesdames et messieurs, je dois, pour commencer, remercier l'organisateur de cette journée de m'avoir invité de présenter quelque chose sur la constitution du centre CNRS d'Alfred Fessard à l'Institut Marais. Bon, je vais avoir quelques difficultés pour sauter d'un autre à l'autre, mais on va voir. Voilà. Alfred Eugène Fessard. Oh, je dois remercier aussi Jean Fessard pour m'avoir envoyé quelques photos avec ça aussi. Ah, je dois pouvoir lire un peu. Oh, je peux, non, ça va. Un peu. La moitié ou le quart, peut-être.
Et voilà.
Tout et rien, hein? Bon. Un vrai accent. Bon, Alfred Fessard, non, il faut. Peut-être on peut éteindre. Né avec le XXe siècle, c'est de lui qu'on parle, et l'Institut Marais, où il a été installé. C'est plus tard que son installation, mais ça va, c'est pris par moi, il y a quelques années. Bien beaucoup d'années, en effet. Bon, je vais commencer avec, parce que il s'agit de la constitution du centre, le processus de cette constitution, il me semblait bien de passer en revue la carrière professionnelle d'Alfred Fessard, parce que pour expliquer comment il a réussi à établir ce centre, je pense qu'il faut connaître un peu de son histoire professionnelle. Et pour cette raison, j'ai commencé comme ça. Pour commencer, il était envoyé à l'école commerciale de la Chambre de commerce de Paris par son père pour devenir commerçant dans une certaine manière. Mais son père, qui était imprimeur, était subit l'influence de Jean-Marie Lailly, qui était un psychologue influencé par la pique. Et Lailly a convaincu le père Fessard que son fils ferait mieux d'étudier la science, parce qu'il s'y intéressait. Et pour cette raison, il a été envoyé à l'école pour les instituteurs, où il a étudié la physique, la chimie et la physiologie. Et après sa commencement, il a commencé ses études pour sa licence en sciences à la Sorbonne, en physique, physiologie et psychophysiologie. Au même temps, il fréquentait le laboratoire de physiologie appliquée d'Edouard Toulouse. Et Lailly, il travaillait avec Toulouse à l'hôpital Henri Roussel à Sainte-Anne. Pour sa licence, il était beaucoup influencé par C'est professeur, la pique, évidemment, et aussi c'est une mauvaise image, je sais, c'est le meilleur que je pourrais trouver de Paul Potier, qui était bien connu pour avoir collaboré avec Charles Richer pour le commencement de la découverte de l'anaphylaxie. Pendant ses études, comme j'ai dit, il gagnait de l'expérience pratique chez Toulouse, Édouard Toulouse. Et plus tard, il écrit, Toulouse était un psychiatre, c'est ça la chose principale de dire de lui, assez importante, je comprends. En parlant avec M. Gallifrey, Yves Gallifrey. Plus tard, Fessa écrit quelque chose comme ça, je fais la paraphrase, que dès ses débuts, il fréquentait des psychologues et des psychiatres qui supportaient des méthodes expérimentales pour définir les opérations du cerveau. Il était aussi impressionné par l'analyse des mécanismes nerveux, ainsi que par la connaissance des complexités des êtres entiers, comme surtout l'homme. Après la licence, qui s'est disparu malheureusement, je dois... Après la licence, à la faculté des sciences, il travaillait pour quelques 2 ans, sans salaire, je crois, avec Édouard Toulouse et Lailly, où il était guidé par Henri Laugier. Henri Laugier, qui était un neurophysiologiste, qui travaillait avec Toulouse et Lailly, mais il a guidé Fessa dans les recherches électromyographiques sur la fatigue musculaire. Aussi avec des tests psychophysiologiques, je crois. L'influence de Laugier était très importante pour Fessa. Laugier était qualifié en sciences et médecine, les deux, en 1913. Il était ancien combattant de 14 à 18. Et après la guerre, la première guerre, il avait reçu son doctorat et sciences. Faut démontrer Laugier, hein, maintenant, je crois. Qu'est-ce qu'il sait?
Oui, voilà, Laugier, à droite.
Après son doctorat, il a fait un peu de recherche chez Lapique, et après, ensuite, est devenu directeur du nouveau, chez Toulouse, du nouveau, et ça c'est intéressant comme titre, laboratoire de physiologie appliquée à la prophylaxie et à l'hygiène mentale. C'est tout un morceau de mastiquer. Henri Pierron, qui était à peu près à ce moment devenu professeur du laboratoire de la physiologie des sensations au Collège de France, aussi travaillait un peu chez Toulouse. Et dans cet environnement, il collaborait un peu, ou peut-être plus qu'un peu, avec Alfred Fessard. Bon, en 26, Fessa a reçu un poste comme préparateur de l'école pratique des autres études chez Toulouse, toujours guidé par Laugier, et il continuait avec cela pendant quelques années. Mais en 27, il entrait dans le laboratoire au Collège de France de Henri Pierron, qui était le plus grand psychologue de l'époque. en France au moins. Là, il faisait des recherches psychophysiologiques et électrophysiologiques.
Maintenant, comme directeur adjoint de l'EPHE, et c'est intéressant qu'en 1928, il a présenté sa première note à l'Académie des sciences, présentée
par Dassonval, dont il a écrit assez amusant, un passage assez amusant.
Bon, continuons l'étape de sa vie professionnelle. Ce n'est pas marqué ici, mais en 1934, Fessa a introduit la méthode, et les appareils sans doute, de l'électroencéphalographie en France. Il était le premier à le faire, et tout de suite, il est devenu quelqu'un que les neurologues voulaient consulter tout le temps pour pouvoir appliquer cette méthode à leur patient.
Il a fait son doctorat, comme est noté ici, une thèse sur les propriétés rythmiques des nerfs. En 1937, il était invité, il est allé à Cambridge avec une bourse Rockefeller pour étudier dans le laboratoire d'Edgar Adrian. Edgar Adrian, je vais le dire correctement, où il travaillait avec Brian Matthews. Il travaillait sur les racines de la moelle de grenouille et il réussit à enregistrer des potentiels synaptiques, qu'ils ont baptisé les potentiels synaptiques, dans les racines dorsales qui étaient produits par un potentiel d'action dans un seul axon tactile, un seul récepteur.
En 38,
il voulait établir son propre école en neurophysiologie. Avec l'appui de son chef, Pierron, l'appui de Lapic, qui était président de l'association de l'Institut Marais à ce moment, et de Laugier, qui administrait le service central de la recherche scientifique. La situation administrative de ces services était compliquée, c'est difficile, je ne veux pas y entrer là-dedans. Et Laugier allait venir l'année suivante, le premier directeur du CNRS, établi formellement, même après la déclaration de guerre, établi en octobre. Mais Fessa a trouvé le bâtiment de l'Institut Marais en 38, presque vide. Il commence à s'installer là-dedans avec ces structures que j'ai mentionnées. Son installation dans ce bâtiment était terminé au complet, assez tôt, je pense, en 39. En trois salles seulement de ce bâtiment.
C'est un plan du bâtiment vers 1910, mais je pense que c'était peu changé 25 années après qu'on fait ça. Il est introduit. Il y avait une sous-sol avec chauffage, accumulateur. Il y avait l'écran noir, je pense, ne subsistait pas plus. S'il n'y avait jamais un musée, je m'en doute, même si Richer on a beaucoup parlé. Mais il y avait des labos, des chambres pour accueillir les visiteurs, c'est dans l'époque avant Fessage, donc je parle. Une cuisine pour les autres, une bibliothèque, des labos aussi. Mais on voit qu'il y avait rez-de-chaussée, premier étage, et le deuxième étage n'était que la partie centrale du bâtiment.
J'ai parlé des d'une subvention pour une bourse de la Fondation Rockefeller, mais je n'étais pas le premier. En 1937, la Fondation a donné la somme, 50 000 francs, à le laboratoire de Pierron pour les travaux de Fessard. En 1938, ils ont aidé cette entrée dans l'Institut Marais avec 100 000 francs pour créer des facilités pour la recherche électrophysiologique avec tous les supports indiqués là-bas. Et il faut dire que entre les deux dates, 38 et 40, il y avait une autre subvention ici. Il faut remarquer qu'en 37, en 39, Fessard, avec Feldberg, de Londres, je pense, à ce moment, non, Cambridge à ce moment, peut-être, et Nachmanson, qui était français en France, ont fait à Arcachon la démonstration que le nerf électrique de la torpille, la poisson électrique dans laquelle Fessard était intéressé depuis des années, parce que j'ai oublié de remarquer que chez Pierron, au Collège de France, il avait beaucoup de liberté pour ses recherches. Il a dû faire des trucs électromyographiques et arranger les appareils, les méthodes pour présenter les stimuli psychophysiologiques, les stimuli des sens pour les études de Pierron, mais il avait beaucoup de liberté. Il a fait de l'électrophysiologie sur une grande gamme d'animaux dont je ne vais pas en parler, mais des animaux rongeants, des invertébrés, des poissons électriques et sur l'homme, en effet. Donc, en 1939, ils ont fait à Arcachon, les trois, des études préliminaires sur la transmission chimique auquel Feldberg était un très grand supporter. Et ils ont établi que le nerf électrique libère l'acétylcholine à ses terminaisons sur l'électroplaque. Mais bientôt, Nachmanson est allé à, parce que la guerre menaçait, il est allé en Grande-Bretagne, après aux États-Unis. Et Feldberg a fait quelques expériences de plus, mais la guerre était déclarée. Je pense que la Fondation Rockefeller en Amérique n'était pas engagée dans la guerre. Alors ils pouvaient envoyer des fonds à Fessard qui étaient occupés par cette destinée pour ces recherches sur les organes électriques. Mais c'est important, c'est que Rockefeller pensait que Fessard avait assez d'importance de recevoir ces subventions. Bon. Nous sommes ici. Bon. Non. Ici. Au commencement de la guerre, Fessard, en étant capitaine de la réserve, était mobilisé presque tout de suite, je crois, et au service ici de médico-physiologique de l'armée de l'air, mais il était envoyé avec Pierron et toute son équipe à Bordeaux, ou plutôt la base de l'air à Mérignac, où il y a un grand tas de dons de la science française. Là, il s'occupait, si je comprends bien, il s'occupait de sélection, disons, la sélection des futurs aviateurs pour l'armée de l'air avec, en utilisant les méthodes développées par Pierron et d'autres dans ses travaux qui étaient très, très divers. Mais, avec l'armistice, il est rentré à l'Institut Marais à Paris pour essayer de continuer des recherches dans ce petit trois salles qu'ils avaient. Et en 1942, il a épousé Denise Alb. Denise Alb qui avait travaillé pour Daniel Auger, qui était un grand ami et collègue de temps en temps dans les recherches d'Alfred Fessard. Mais ils ont travaillé à l'Institut de biologie physico-chimique. Pendant l'occupation, Fessard travaillait beaucoup avec Auguste Tournet, un neurologiste. Il a travaillé pour faire les électromyographies, je crois, à l'hôpital Aide aux enfants paralysés, c'est-à-dire les enfants qui ont souffert de poliomyélite.
Comment je paye pour le temps? Ça va?
Merci. Après la guerre, en effet, en 1945, ce n'est pas marqué ici, les Fessard étaient invités à Cambridge par Adrian pour une visite. Et ils ont assisté à une réunion de la Physiological Society à Oxford, où il a rencontré surtout David Witteridge, qui les ont donné un sac avec des composants électroniques variés qui manquaient en France, qui leur manquaient au moins à l'Institut.
En 1946, Fessard a été envoyé en mission officielle au centre pour visiter les centres de la neurophysiologie aux États-Unis. Il est rentré de cette mission avec une impression très forte d'un retard de la France, compréhensible, en pensant à la guerre et l'occupation, mais retard dans ce sujet de la France en comparaison avec les États-Unis. Il a fait un rapport sur l'Institut Marais aussi. Et je pense que ce rapport sur l'Institut Marais était inspiré par son désir d'établir quelque chose avec le CNRS dans cet institut. À un certain moment, il croyait que le CNRS voulait en faire un de ses laboratoires officiels, mais ce n'est pas comme ça que c'est éventué. Le rapport de Fessard sur l'Institut Marais comprenait des passages sur ces sujets. Et je vais résumer très, très rapidement ce qu'il disait. Pour commencer, les fonds, le bâtiment, les meubles, les outils de l'atelier étaient tous en mauvais état. Les revenus étaient incertains, je veux dire. Il parlait du déclin de l'Institut Marais jusqu'à 1939, en datant ce déclin dès le moment de la mort de Richer. Mais c'est très clair que le déclin a commencé très tôt après la Première Guerre mondiale, sous le contrôle de Richer, contrôle à distance. Il mentionnait l'appui par le CNRS pendant l'occupation.
Le CNRS continuait à opérer avec changement de direction parce que Loger est allé aux États-Unis pour faire des choses pour la France là-bas, pour la France libre, je veux dire, là-bas. Et Le prix des CNRS comprenait les salaires de Lucien Boulle, qui était là depuis toujours, de Dalfessard et deux techniciens assistants qui s'appelaient Allard et Raisonville. Aussi, le CNRS fournissait des fonds pour la maintenance des lieux un peu, pas beaucoup, et provisions pour faire la recherche. Il parlait de la position actuelle en disant qu'il n'y a presque pas de ressources, que l'atelier est dans une condition déplorable, que n'y avait pas d'ouvriers qualifiés qui auraient voulu y travailler. Il y avait, par exemple, deux tours à pédale. Je ne pense pas que j'ai jamais vu un tour à pédale. Mais je ne suis pas jeune. Hein? Il n'y avait pas de caméra, comme il dit, dans le berceau du cinéma. Il n'y avait pas de caméra. Mais, en revanche, il y avait des consultations demandées par toute une rangée de cliniciens et d'autres qui connaissaient déjà, je suppose, l'importance d'Alfred Fessard dans le cadre des neurosciences naissantes françaises. À cette époque, au même moment, Fessard a pris un plan comme j'ai montré avant. Il n'y a plus de musée, c'est une salle de réunion, rez-de-chaussée. C'est trois. Je pense que ce sont des annotations d'Alfred Fessard même. Il y avait trois salles ici qui étaient marquées garçons. Je ne sais pas pourquoi le garçon avait besoin de ton espace. Et dans le premier étage, il a fait les rayures comme ça pour indiquer l'espace voulu pour la neurophysiologie. Bon, c'était ses idées à ce moment. Après, la réalité va beaucoup surpasser ces plans. Bon, maintenant nous entendons la matière de cette journée. Simple. Non. Bon. Vous notez qu'en 1947, il est devenu directeur du centre d'études de physiologie nerveuse et de l'électrophysiologie établi dans l'Institut Marais. Mais l'histoire était que l'établissement de ce centre était appuyé, supporté fort par Georges Jamati, qui était directeur adjoint du CNRS, par Émile Terroin, un physiologiste, professeur de physiologie de Strasbourg, mais qui avait de l'influence au CNRS, selon les informations que j'ai reçues de M. Buzier l'autre jour, et par le CNRS devenu son fournisseur principal des fonds. C'est ça, l'importance de CNRS dans l'établissement, je pense, de ce centre. Alors, on a établi un centre d'études avec ce grand nom, je crois aussi de M. Buzier, Pierre Buzier, que ce titre a été conçu par Terroin, qui aimait les grands titres, n'est-ce pas? Bon, il a vérifié ça. Il faut maintenant regarder un peu, c'est peut-être peu visible du fond, mais je vais dire que, à part les formalités comme le lieu du siège, du centre qui est dans le marais, c'est la mission envisagée qui est importante. Premièrement, ils disent que la mission était toute espèce de recherche. sur le système nerveux chez l'homme et dans les animaux. Et d'utiliser en particulier les techniques électrophysiologiques qu'ils avaient mission, j'ai raccourci un peu, ils avaient mission de les développer et les perfectionner. C'est-à-dire, ce n'était pas uniquement de faire la recherche en utilisant ces techniques, mais c'était de contribuer à leur perfection. Il avait la mission de former les jeunes chercheurs dans ce domaine, numéro un, d'établir les liens avec des centres français similaires, si on avait. Il y avait plusieurs. C'est vrai. Et à l'étranger, et faire des échanges de vues. C'est normal. D'organisation des séminaires avancés, théoriques et pratiques, sur les résultats récents, et de faire des préparations pour son siège définitif, c'est-à-dire le siège du centre, dans le domaine CNRS de Gif-sur-Yvette. Je ne sais pas s'ils l'ont fait après beaucoup de préparations eux-mêmes, parce que je n'ai pas trouvé des indications que c'était occupation, préoccupation de l'Institut Marais ni du centre là-dedans. Bon, c'était apparent, je pense, que Alfred Fessard, peu après l'établissement du centre qui était sous-signé l'accord entre l'association de l'Institut Marais et le CNRS, était signé par l'association le 21 juin 1947 et par le directeur du CNRS le 21 juillet 1947. Alors, c'est commencé. Mais peu après, Fessard était nommé ou élu professeur au Collège de France dans la nouvelle chaire de neurophysiologie générale. C'est-à-dire qu'il a eu aussi, maintenant aussi la direction d'un laboratoire au Collège de France, mais aussi des fonds, parce que en recevant cette chaire, il était reconnu que l'Institut Marais serait son laboratoire principal pour la chaire. Et il a été aussi nommé, peu après cela, directeur de la station Institut Marais du Collège de France, parce que en 1950, l'Institut Marais était rattaché au Collège de France. Il était séparé depuis presque la mort de Marais en 1904, mais maintenant il est devenu rattaché au Collège de France et devenu une station du Collège. Ici, c'est un plan du site, un peu après, peut-être 10 ans après, qui montre l'avenue Gordon-Bennett, boulevard d'Auteuil, et le site qui était, duquel étaient pris ces deux parties aux côtés par le stade Roland-Garros, qui avec tout cela à l'extérieur aussi déjà. Il voulait en effet s'emparer de, c'est notre histoire, de tout le site, mais pour l'instant, l'Institut Marais est ici, avec ici des, qu'on appelait les cabanes, des laboratoires, des lademelleries. Le monument de Marais est ici. Ici, c'était la station physiologique, qui était le bâtiment original sur le site, établi par Marais dans le 19e siècle. Je pense que c'était 82, quelque chose comme ça. Avec son armerie, il avait un petit étang pour les canards, et avec un espace pour ses oiseaux et la maison du gardien. Non. Ah. ça, mais ça va. Non. Je vais chez Fenner. Je veux passer suivant. Pardon. Bon. C'est presque impossible de voir ce qui est écrit ici, mais c'est maintenant, après l'établissement du centre et le développement, le recrutement des gens, que je vais parler dans un instant, on voit qu'il y avait occupation même du sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage n'était plus que la partie centrale, mais sur les toits, on a établi encore des laboratoires. Par exemple, ici, il y avait des petits laboratoires pour faire les services pour les labos de Mme Fessard, qui était ici. M. Fessard occupait cette partie au premier étage. Histologie était ici. Je pense à un certain moment, Jean Nation occupait des laboratoires ici. Il y avait la section photographie ici. Et ensuite, la bibliothèque ici et ici les labos de taupe dont je vais parler pour l'instant. Bientôt après l'établissement, ou même avant l'établissement du centre, Alfred Fessard a commencé à recruter des chercheurs prometteurs pour son nouveau laboratoire. Le premier était Pierre Buzier, qui est arrivé en 1945-47, déjà agrégé à la Faculté des sciences de Paris, qui s'occupait surtout de la neurophysiologie cérébrale. En 1949, arrivaient deux personnes. Je pense que Tocque était arrivé le premier, je ne suis pas certain. Il est devenu employé du CNRS à l'Institut Marais, dont on va parler beaucoup de lui ensuite, je crois. Et Jacques Paillard, du CNRS, qui faisait, il est en 1949 aussi, la neurophysiologie sur l'homme. Il y avait d'autres, mais ce sont ces trois qui ont établi, pour le commencement de ce centre, les noyaux importants pour le développement en trois directions pas tout à fait séparées, alliées, il faut dire, avec le développement des recherches de Mme Alfessard ici aussi, pour commencer sur la physiologie cérébrale, neurophysiologie cérébrale. J'ai presque terminé, M. Buzer. Ce n'est que deux, trois trucs. La nouveauté, 42. Je inclus ça pour montrer que ici, c'est Pierre Buzer qui essaie de se cacher derrière Scherrer. Il y a Ladislav Tocque, je pense. Oui, Tocque, ici. Dont j'ai parlé. Il y a ici Paillard. Et Alfred Fessard et Denise Alfessard. Nouveauté, pourquoi? Parce que c'est une copie du thé organisé par Marais en 1902. L'année de l'établissement formel de l'Institut Marais. Bon, une autre photo de M. Fessard, Alfred Fessard, à peu près 46, envoyée par Jean Fessard, par poste électronique, avant ma visite ici, et Mme Fessard a pris de l'autre du photo précédent. Ce sont les partenariats, c'est le partenariat qui ont, disons, été les fondations, dans un certain sens, de l'effleurissement de l'Institut Marais pendant les années suivantes. Les autres ont parti. Pierre Buzer pour la Faculté des sciences, Tocque pour CNRS à GIF, Paillard pour le CNRS à Marseille. Mais ces deux sont restés avec d'autres,
suivi le monde.
Bon, il ne reste que de mentionner une référence importante pour moi sur Laugier dans ses cahiers. C'est le livret qui m'était donné par Picard il y a presque 10 ans, je crois maintenant. Et avec cet article par l'Américain sur Henri Laugier, qui était plein d'informations, c'est peut-être la seule référence utile que j'ai trouvée sur lui. Et aussi, cet article de Jean-François Picard et Madame Padura, La Longue Marche vers le CNRS, c'est absolument impénétrable pour moi, cet article, malgré plusieurs essais de le lire, parce que l'histoire est tellement convolutée que j'en ai renoncé. Merci. Alors, je voudrais remercier aussi, j'ai presque oublié, l'aide récemment donnée par Jean Fégé pour organiser ces trucs, et aussi, si je n'ai pas... Non. Madame, qui, j'ai noté son nom, mais je ne peux pas trouver son à ce moment, qui était la dame qui dirigeait les archives du CNRS, qui m'a envoyé la photo de Laugier, et je voudrais remercier aussi Yves Gallifrey pour ces informations récentes pour m'aider. Anciennes et récentes pour beaucoup d'informations. Merci.
Tu as bien résumé, en quelque sorte, l'essentiel de l'historique du début de l'Institut Marais. Est-ce qu'il y a une question d'apport ?
Non, je souhaiterais que vous remontiez la diapositive. Je souhaiterais, si c'est possible, que vous remontiez la diapo sur laquelle il y a à la fois la station physiologique et l'Institut Marie, parce que c'est un point qui n'est pas du tout clair pour les gens qui ne sont pas de ma génération.
Voilà. Quel est le problème, monsieur Laporte ?
Que vous expliquiez ce qu'est la SPH, la station physiologique.
Station physiologique, ici, je vous explique.
Oui.
Il faut dire que je ne suis pas au courant avec les recherches qui ont été faites là-dedans, parce que ça variait selon les époques. Mais la station physiologique était le premier bâtiment construit par au demande de Marais dans cette ère du Parc des Princes pour faire ses expériences sur le mouvement des animaux et de l'homme. C'est ça?
Oui, tout à fait. Vous ne voulez pas rentrer dans toutes les difficultés qu'il y a eu entre la station physiologique et l'Institut Marie?
Je pourrais, mais ça prenait pas mal de temps, monsieur Laporte. Monsieur Laporte veut faire référence à le fait qu'après la mort de Marais, dont j'ai parlé l'année dernière beaucoup en France, à Paris, à Bonn et à Marseille. Mais l'Institut Marais était conçu par Marais, peut-être même avant 1900. C'était devenu le lieu pour une commission formée par le Congrès international de physiologie. Londres, je crois, ou peut-être Cambridge, en 1898. Et La commission était avec le devoir de surveiller les méthodes expérimentales en physiologie, qui étaient à ce moment toutes ces méthodes étaient mécaniques, disons, presque et photographiques, parce que Marais était le spécialiste et le vrai inventeur de cinématographie. Mais juste peu après la construction de ce bâtiment, en deux étapes, dans la première étape, il y avait la partie centrale et deux ailes d'un étage. Une aile d'un étage. Et bientôt, on a élargi le bâtiment en faisant deux ailes de deux étages, comme était l'institut de bâtiment finalement vu. Mais à la mort de Marais en 1904, la position de l'Institut Marais était devenue problématique, c'est pour le moins dire, parce que c'était dirigé par cette association qui n'était pas une partie du Collège de France, même si sous Marais, qui était professeur au Collège de France, tout était réuni. Et il y avait une espèce de querelle ou dispute entre le Collège de France et l'association, ou surtout les gens qui occupaient l'Institut Marais, dont il y avait peu de gens. Il y a Lucien Bull surtout, et peut-être Noguès et quelques techniciens, et les visiteurs. Donc, cette dispute est résolue.
Je prends M. Cobuzet, peut nous donner des renseignements sur la station physiologique.
En partie. Parce que la station physiologique, c'est-à-dire ce que vous voyez là, SPH, en fait, lorsque je suis arrivé à l'Institut Marais, je ne peux pas parler de ce qui s'est passé avant, lorsque je suis arrivé à l'Institut Marais en 1947, ce laboratoire était occupé par le professeur Carrie Droit, qui était un neuro-endocrinologiste, enfin, c'était surtout un endocrinologiste. Et ensuite, Carrie Droit nous a quittés, il est mort, et la station est restée un moment sans aucune direction. Il y avait là-dedans essentiellement Pierre Mial, qui est maintenant aussi nous a quittés. Il y avait essentiellement Pierre Mial et quelques autres. Non, pas encore. Lorsqu'ensuite a été élu au Collège de France M. Benoît, qui était celui que nous appelions Benoît Canard, parce qu'il s'est intéressé au canard, par opposition à un autre Benoît qui était professeur à Orsay. Benoît Canard est arrivé comme professeur au Collège de France et il s'est installé là. Et à partir de ce moment-là, cette station physiologique est en quelque sorte devenue une station physiologique du Collège de France. Et c'est à ce moment-là que ce que tu as désigné comme l'animalerie des canards est effectivement devenu l'animalerie des canards. Donc, ça est resté comme ça, et c'est Hachette Machère est venu dans le sillage de Benoît, de Monsieur Benoît. Voilà un peu très résumé comment les choses se sont passées. Il faut aussi ajouter une chose, c'est que tout cet institut Marais a disparu par la volonté de Chaban-Delmas, qui était un grand tennisman. Il aimait beaucoup le tennis, et il est allé visiter un jour Roland Garros, qui est autour, et il a dit, qu'est-ce que c'est que cette vieillerie? Alors on lui a dit, monsieur le Premier ministre, c'est un laboratoire. Bon, vous allez me raser tout ça, et c'est comme ça que, je simplifie bien sûr, c'est comme ça que l'Institut Marais a disparu. Oui, je vous en prie.
Le nom de Jacques Allard dans votre exposé, et ça m'a intéressé d'apprendre qu'il était déjà avec M. Fessard, bien avant 1946. Mais je me souviens que Jacques Allard a eu pendant très longtemps, au moins quand je l'ai connu à partir du milieu des années 60, comme intervenant au Palais de la Découverte. Et ma question est donc la suivante. Est-ce que M. Fessard aussi était impliqué dans les expériences de neurophysiologie présentées au public au Palais de la Découverte?
Ah oui, mais c'est en 37, je crois.
Oui, très tôt, Fessard a été démonstrateur. Il faisait des démonstrations d'EEG, d'électrophysiologie musculaire, d'électromyographie au Palais de la Découverte. D'ailleurs, dès que je suis venu à l'Institut Marais, il m'a confié cette tâche que j'ai assumée pendant une dizaine d'années aussi au Palais de la Découverte.
Je ne connaissais pas ça. Je connais qu'il était impliqué dans 37 avec Bull.
Je pense que nous pouvons remercier John McKenzie pour, je ne dirais pas pour sa brièveté, non, mais pour son excellent exposé.
Merci.
Merci, John. Alors maintenant, nous continuons avec la présentation de Jean-Claude Dupont. Jean-Claude Dupont est historien des neurosciences à l'Université d'Amiens et à l'Institut de l'Histoire de Philosophie des Sciences et des Techniques à Paris 1. Nous lui devons un ouvrage sur l'histoire de la théorie de la neurotransmission chimique et un certain nombre d'articles d'histoire des neurosciences. Il illustrera aujourd'hui un aspect qui est un point de la carrière d'Alain Fessard avant la guerre et sa collaboration avec Marmanzon et Feldberg à Arcachon sur les mécanismes cholinergiques à propos de la torpille. Jean-Claude Dupont, vous avez la parole. Vous avez la parole pour trois quarts d'heure, je crois.
À peu près trois quarts d'heure.
Bien. De préférence, un peu moins longtemps pour qu'il y ait du temps pour la discussion. Merci.
Très bien. Donc, je remercie tous les organisateurs donc, de cette journée extrêmement intéressante sur l'Institut Marais. Et je vous propose de... Et je vous propose... Ah, ça va mieux. Je vous propose donc effectivement de vous parler de la contribution d'Alfred Fessard à l'établissement de la théorie de la neurotransmission chimique, sujet qui a été effectivement abordé un peu précédemment. Alors, lorsque l'on s'intéresse à la contribution française à l'histoire de la neurotransmission, jusqu'aux années 40, on rencontre deux personnages qui ont joué des rôles tout à fait antinomiques. On rencontre Louis Lapicque, inévitablement, et on rencontre Alfred Fessard. Louis Lapicque va être en effet l'auteur d'une théorie électrique de la transmission, à laquelle il va donner le nom de théorie chronaxique, théorie à laquelle Alfred Fessard portera un coup fatal. Et ce coup fatal, et certainement son fameux article sur le rôle électrogène de l'acétylcholine, qui parut en 1939 à la suite de la fameuse expédition d'Arcachon. Cette aventure microphysiologique va être interrompue pour Fessard par l'invasion allemande, et ce n'est qu'après la guerre, et après son retour des États-Unis, qu'elle reprendra, mais cette fois dans le cadre d'un laboratoire du CNRS, donc le Centre d'études de physiologie nerveuse et d'électrophysiologie. Et l'aventure sera cette fois beaucoup plus collective, puisque le centre va accueillir entre autres Pierre Buzer, Jacques Paillard, Jean Scherrer, Ladislav Tocq, qui en feront effectivement, sous la pulsion d'Alfred Fessard, un des plus importants centres d'électrophysiologie au monde. Donc ce que je propose ici, c'est d'essayer de restituer la période immédiatement antérieure à la création de l'unité CNRS. Donc on suivra le traitement de la question de la neurotransmission en France à cette époque, et les circonstances qui vont mener à l'expédition d'Arcachon, et à ce fameux article de 1939 sur le rôle électrogène de l'acétylcholine, qui sera co-signé avec David Nachmanson et Willem Feldberg. Donc on envisagera l'apport respectif des trois auteurs jusqu'à cette époque, et les circonstances particulières qui ont mené à la genèse de cet article. Et il faut d'abord, pour cela, reprendre quelques éléments de l'histoire générale de la neurotransmission. La neurotransmission est une question dont l'origine n'est compréhensible qu'à partir d'un réseau conceptuel construit à la fin du 19e, auquel nous sommes renvoyés, puisque c'est à partir des concepts de synapse et de potentiel d'action, encore imparfaitement validés à l'époque, que le problème de la neurotransmission devient possible et commence à se poser. Ayant depuis Claude Bernard posé le problème du mécanisme de l'action des substances neurotoxiques, curare, et depuis les travaux de l'école de physiologie de Cambridge, celui des substances neuromimétiques, l'adrénaline, c'est la pharmacologie qui suscita l'idée d'une transmission chimique. L'hypothèse de la transmission chimique est formellement énoncée dès le début du XXe siècle à l'école de physiologie de Cambridge, puisqu'il y a des substances chimiques comme l'adrénaline reproduisant l'effet de l'excitation, celles-ci pourraient représenter les agents physiologiques de la réexcitation. Autrement dit, le potentiel d'action pourrait franchir la synapse par l'intermédiaire de substances chimiques hypothétiques qui prirent donc le nom de médiateurs chimiques. Après ceux de John Langley, les travaux pharmacologiques se multiplièrent et présentèrent plusieurs substances candidates à la neurotransmission. Il existait cependant une autre réponse. Le potentiel d'action aurait pu être l'agent direct de la réexcitation. Le neurophysiologiste français Louis Lapicque va donner à cette thèse le nom de théorie chronaxique. À partir d'une critique des travaux de Dubois-Raymond, Lapicque montra que l'excitabilité d'un neurone était sous dépendance de deux facteurs, l'intensité du courant excitant, mais aussi sa durée. Il définit la chronaxie comme étant une constante de temps caractérisant l'excitabilité d'un tissu grâce à un circuit électrique approprié, utilisant comme courant excitant un courant de forme analogue au potentiel d'action. Il avança que la transmission n'était possible que lorsque les éléments étaient, je cite, « accordés chronologiquement, isochrone », c'est sa fameuse loi de l'isochronisme. Et dans ce schéma, on voit qu'il n'y avait pas intervention de substances chimiques. Alors, sans parler du facteur institutionnel particulier à la recherche française, qui contribuait à l'établissement et au maintien de cette théorie électrique, il faut insister sur une certaine plausibilité de la théorie électrique par rapport à sa rivale chimique à l'époque. Elle aboutissait effectivement à une certaine compréhension des modalités d'aiguillage, selon Lapicque, dans les centres nerveux, par modification des chronaxies des éléments. Le courant transsynaptique aurait très bien pu, par ailleurs, franchir une fente synaptique dont on ignorait la dimension. La théorie n'expliquait pas les influx inhibiteurs, l'irréciprocité des influx, mais elle était plus compatible avec l'hypothèse chimique que ce que l'hypothèse chimique avec ce que l'on savait de la rapidité des transmissions. Elle pouvait paraître plus satisfaisante d'un point de vue expérimental. Les lois de l'isochronisme et les lois de sommation avaient été en effet présentées comme rigoureusement vérifiées par Lapicque et son école, et les expériences pharmacologiques sur organes isolés paraissaient beaucoup plus rudimentaires à l'époque. Les données pharmacologiques avancées par l'école de Cambridge, comme le neuromimétisme et la modulation des effets de ces agents neuromimétiques par des agents lytiques, comme le curare, la nicotine, l'atropine, l'ergo, pouvaient d'ailleurs être expliquées dans le cadre de la théorie électrique, tous ces poisons étant censés modifier la chronaxie des éléments. Mais surtout, au-delà, les conceptions électriques ouvraient la perspective d'une théorie physique globale du fonctionnement de la machine nerveuse, pour reprendre le terme de Lapicque, par subordination des centres inférieurs aux centres supérieurs. Cette généralisation fonctionnelle, qui évoque Jackson, ne postulait aucune donnée autre que celle fournie par l'électrophysiologie élémentaire de l'époque, celle d'entre les deux guerres, celle d'Adrian et d'Erlanger et Gasser. Elle était compatible avec les données réflexologiques de Sherrington et de Pavlov. Elle s'insérait donc bien, en résumé, dans le corpus des connaissances neuroscientifiques et le style de pensée d'une période de la science, d'entre les deux guerres, dominée par le prestige de la physique. À cause de tout cela, l'hypothèse électrique semblera longtemps une alternative très plausible à la théorie chimique. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre les travaux pharmacologiques de Henry Dale et de son époque et de son école, dont Wilhelm Feldberg, un des co-signateurs de l'article, fut un membre important. Dale avait rassemblé tous les faits concernant l'acétylcholine dans une publication de 1914 qui correspond à l'entrée en scène de cette acétylcholine dans le champ de la neurotransmission. En étudiant les effets de l'injection d'acétylcholine, il avait constaté une reproduction des effets du nerf du système nerveux autonome. Il acquit donc la conviction que l'acétylcholine mimait donc l'action de l'influx nerveux parasympathique, de même que l'adrénaline mimait l'action de l'influx sympathique selon Langley. Avec Dale, la neurotransmission chimique fut alors susceptible d'être rattachée aux deux composantes antagonistes du système nerveux involontaire, et l'on disposait d'un neurotransmetteur putatif sérieux pour chacune d'entre elles. Ces concepts ont ouvert entre les deux guerres des perspectives thérapeutiques considérables et la voie à toute une pharmacologie du système nerveux autonome fondée sur la synthèse de médicaments lytiques et mimétiques. Néanmoins, la problématique scientifique de la neurotransmission persistait. Il fallait d'abord, au moins, démontrer expérimentalement que les substances étaient bien libérées à partir de la terminaison des fibres. La Première Guerre mondiale fera durer cette énigme 7 années durant, durant lesquelles beaucoup de pharmacologues durent se consacrer à des tâches plus pratiques, comme l'élaboration de gaz de combat et de leurs antidotes. La plausibilité de la théorie électrique n'expliquait pas à elle seule l'extrême scepticisme avec lequel fut accueilli ce qui est souvent présenté comme la première preuve expérimentale directe de la libération d'une substance chimique par une fibre nerveuse, à savoir l'expérience cruciale du pharmacologue Lévy, sur Otto Lévy, sur les cœurs de grenouilles isolées, en 1921. On en souligna avec raison le manque de reproductibilité et l'on contesta l'interprétation qu'en fit Lévy. Le débat dura plusieurs années. Néanmoins, grâce à l'utilisation systématique des érines, au perfectionnement technique des dispositifs, on arriva à reproduire l'effet Lévy, que l'on généralisa à toutes les terminaisons du système nerveux autonome. La substance vague fut finalement identifiée par Lévy lui-même à l'acétylcholine. C'est ici que Dell entre à nouveau en scène. En 1929, lors d'une étude sur l'histamine, Dell et Dudley trouvent de façon inattendue de fortes concentrations d'acétylcholine dans la rate du bœuf et du cheval, ce qui prouvait enfin son existence naturelle dans les tissus animaux. L'acétylcholine se révéla vite assez ubiquitaire et fut non seulement décelée aux terminaisons du système parasympathique, mais également dans les ganglions. Dell perçut le véritable enjeu biologique de la question. Pour mettre en évidence les travaux de Lévy avaient abouti à faire admettre une neurotransmission chimique de l'influx à la terminaison des fibres du système nerveux autonome. Dès lors, pourquoi ne pas envisager son extension à tout le système nerveux périphérique et ultérieurement au système nerveux central? Sherrington considérait que la jonction neuromusculaire pouvait fournir un modèle pour les synapses centrales. Néanmoins, on ne pouvait évidemment se contenter d'un simple raisonnement par analogie. Comme l'expliquait Dale, il fallait que le mécanisme de neurotransmission fût l'objet, dans chaque cas, d'une investigation séparée. Le système nerveux central étant à l'époque presque inaccessible à toute expérimentation biochimique fonctionnelle à cause de sa complexité anatomique, Dell et ses collaborateurs du National Institute for Medical Research, une équipe brillante incluant Wilhelm Feldberg, John Gadham, Mart Vogt, Geoffrey Brown, attaqua donc, à partir de 1933, le problème de la transmission synaptique dans le reste du système nerveux périphérique. Pour mettre en évidence une éventuelle fonction transmettrice de l'acétylcholine, Dell et ses collaborateurs utilisèrent la technique du ganglion perfusé de Anton Kipchakov. Kipchakov était parvenu à faire apparaître une substance dans le perfusé après stimulation sympathique. Cette substance avait le même effet que l'impulsion nerveuse lorsqu'on l'injectait à un autre animal. Il fit même une démonstration de son expérience au Congrès international de physiologie de Moscou en 1935. Reprenant les tableaux de Kipchakov, Wilhelm Feldberg identifia l'acétylcholine dans le liquide de perfusion à chaque passage de l'influx. Il dosa cette acétylcholine, vérifia que la quantité libérée était suffisante pour exciter la fibre post-ganglionnaire lorsqu'elle était injectée en perfusion. Et à partir de là, on put vraiment supposer que l'acétylcholine était libérée à la synapse et que le fonctionnement général des synapses ganglionnaires était cholinergique. Poursuivant leur recherche dans le sens d'une extension du mode de transmission cholinergique, Dell et ses collaborateurs tentèrent de l'établir à partir de 1934 pour le muscle strié de mammifères. Les difficultés expérimentales étaient beaucoup plus importantes que celles de la transmission ganglionnaire. Dans le cas du ganglion, l'acétylcholine, une fois libérée de la fibre présynaptique, restait concentrée dans le liquide de perfusion. Dans celui du muscle strié, l'acétylcholine libérée diffusait dans l'énorme masse musculaire et était très diluée dans le liquide de perfusion. Dell et Feldberg vinrent à bout de ces difficultés en travaillant sur un nerf moteur pur, l'hypoclase du chat. L'excitation du nerf ainsi préparée s'accompagna de la libération d'acétylcholine mise en évidence dans le liquide de perfusion du muscle par action sur la pression sanguine du chat et par le test biologique le plus sensible connu alors, la contraction du muscle pariétal de sangsue. Les expériences de Dell semblaient techniquement presque irréprochables. Pourtant, nous allons arriver donc à l'épisode d'Arcachon, un certain nombre de physiologistes n'admettaient pas, la théorie chimique et menèrent un débat contradictoire avec l'imposante école de Dell. En fait, lorsqu'en 1936, Lévy et Dell obtiennent le prix Nobel de médecine pour leur découverte de la transmission chimique de l'influx nerveux, je cite, on ne savait rien encore sur les mécanismes intimes de la neurotransmission. Où et comment était libérée l'acétylcholine? Comment le médiateur était-il stocké, synthétisé, dégradé? Comment agissait-il sur le versant post-synaptique? On assista alors à une accumulation de données qui ne réussissait que partiellement à élucider les mécanismes, d'où l'existence de difficultés importantes de la théorie chimique, laissant parfois la place au développement de conceptions électriques ou mixtes qui traduisaient souvent en réalité des résistances très fortes au concept même de neurotransmetteurs. Ce sont ces difficultés de la théorie chimique qui sont à l'origine de l'expérience d'Arcachon, il faut en envisager donc quelques-unes. On pouvait d'abord donner d'autres significations à la libération de l'acétylcholine. Si dans le domaine du système nerveux végétatif, un accord entre la théorie de la pique et celle des médiateurs avait semblé possible, en montrant que la nécessité de somme pour la pique, en montrant que la nécessité de la sommation était liée à la fois à l'hétérochronisme qui règne dans la fibre nerveuse et la fibre lisse, et à l'action du médiateur, dans le reste du système nerveux, l'accord était plus difficile. La contraction de la fibre musculaire pouvait difficilement être due à la diffusion de l'acétylcholine. Dans le cas des transmissions de l'influx aux organes, processus lent, on pouvait admettre un mode d'action par diffusion des substances. Mais les transmissions directes entre éléments isochrones, qui sont rapides, ne laisseraient pas le temps d'une grande libération de médiateurs. Pour rendre compte de cette difficulté, la pique attribue à l'acétylcholine un rôle secondaire d'amorce, facilitant le départ d'un nouvel influx, directement responsable, lui, de la contraction musculaire. L'influx étant supposé exciter directement l'organe effecteur, l'acétylcholine, qui n'avait plus le rôle de transmetteur, n'était pas libérée par la terminaison nerveuse, mais par le muscle. Et en proposant cette théorie mixte pour les muscles striés, la pique préservait ainsi l'essentiel de sa théorie électrique, tout en intégrant, en partie au moins, les résultats des expériences de Thaël, plus élaborées et plus difficiles à réfuter que celles de Lévy. Par ailleurs, comme on l'a vu, l'expérimentation sur le muscle strié était techniquement difficile. En revanche, il existait un organe analogue à la sole nucléée musculaire au niveau des ganglions, représenté par les cellules satellites en contact étroit avec les terminaisons nerveuses. Celles-ci ne pouvaient-elles pas représenter le véritable lieu de libération de l'acétylcholine? C'est en 1938, au Rockefeller Institute, à New York, que l'on testa cette hypothèse. Raphaël Lorente Deneau, physiologiste de talent, entreprit avec Gasser une série d'expériences sur la libération d'acétylcholine dans les ganglions cervicaux supérieurs et nodaux du vague chez le chat, à l'aide de la technique de la perfusion de Kipchakov qui avait été utilisée par l'école de Thaël. La libération de l'acétylcholine se produisait spontanément sans stimulation électrique, ce qu'il attribua à un dommage tissulaire lié à la technique de perfusion. Et en cela, il reprenait une critique déjà faite aux expériences de Lévy, et s'appuyait pour cela sur des observations histologiques. Si en modifiant la technique, on utilisait des préparations non endommagées, il n'y avait pas de libération spontanée, et après stimulation, celle-ci était très faible. Elle survenait d'ailleurs quelque temps après que la transmission ait cessé. Ainsi, s'il était clair qu'il existait un métabolisme de l'acétylcholine dans les tissus ganglionnaires, la technique de perfusion utilisée par Thaël ne permettait pas de déterminer si celui-ci était vraiment spécifique, donc des synapses. Mais la principale difficulté avait trait au métabolisme du transmetteur. Nous arrivons à l'œuvre capitale de Nachmanson, le deuxième co-signateur de l'article d'Arcachon, qui sera donc un farouche opposant à la théorie neurohumorale. Après des études médicales et une formation en enzymologie et en chimie des protéines, Nachmanson eut la chance d'entrer en 1926 au prestigieux Kaiser Wilhelm Institute, KWI, de Berlin, d'Alain. Fondé en 1910 en pleine prospérité, le KWI exerce encore, à l'époque, en dépit de la défaite, un rayonnement exceptionnel sur la science allemande, d'entre les deux guerres, comparable à celui de l'école de physiologie de Cambridge en Angleterre. Nachmanson, au laboratoire de Meyerhoff, va d'abord étudier la contraction musculaire. Il sera témoin de l'isolement des enzymes musculaires qui permirent l'élucidation complète de la séquence réactionnelle de la glycolyse. Entre 1927 et 1934, l'école de Meyerhoff va montrer que l'hydrolyse de certains dérivés phosphatés, comme la phosphocréatine ou l'ATP, s'accompagne d'une variation importante d'énergie libre, aboutissant à la notion donc de composé riche en énergie, pourvoyeur d'énergie chimique pour la cellule vivante. Nachmanson baigne encore dans cette atmosphère intellectuelle lorsqu'en 1933, quelque temps après l'arrivée au pouvoir des nazis, il quitte l'Allemagne pour la France où il s'intègre dans le groupe de René Wurmser. C'est durant cette période française qu'il commence à assister aux colloques de la Physiological Society qui détermineront l'orientation de sa vie scientifique ultérieure et qu'il commencera à s'intéresser à la neurotransmission. Son destin est ambitieux. Meyerhoff voulait corréler les transformations chimiques avec la production du travail musculaire et la production de chaleur. Nachmanson, lui, veut appliquer cette idée de couplage énergétique et chimique des réactions cellulaires à l'activité nerveuse, c'est-à-dire au phénomène physique accompagnant la propagation de l'influx, production d'électricité et de chaleur. En bon biochimiste, il pense que la compréhension du rôle physiologique de l'acétylcholine passe d'abord par la reconnaissance des enzymes l'hydrolysant et la formant, et de manière indissociable des processus énergétiques impliqués et leur intégration dans le métabolisme et l'activité générale de la cellule nerveuse. Or, une des principales difficultés de la théorie chimique était justement la nécessité d'un système enzymatique inactivant très rapidement l'acétylcholine. Et ceci l'amènera en 1936 à entreprendre ses premières études sur les cholinestérases. Naturellement, s'il apparaissait essentiel de comprendre la dégradation de l'acétylcholine, il fallait aussi, parallèlement, étudier les conditions de sa synthèse. Dès 1936 et 37, on savait, notamment grâce aux travaux de Castel et de Stedman, qu'il existait dans le système nerveux un ensemble enzymatique synthétisant l'acétylcholine. Mais comment obtenir les enzymes en quantité suffisante? Nachmanson va alors s'attaquer à ce problème en utilisant le tissu électrique de la torpille, Torpedo marmorata, où il avait déjà trouvé de fortes concentrations d'enzymes hydrolytiques, mais aussi d'ATP, composé riche en énergie qu'il connaissait bien. Il enregistre une forte baisse de concentration de phosphocréatine au moment de l'activité électrique et suppose alors que celle-ci est utilisée pour la resynthèse d'ATP, celui-ci apportant à son tour l'énergie nécessaire à la synthèse de l'acétylcholine. Cette biosynthèse in vitro est la première réaction endergonique décrite comme utilisant l'énergie libérée par l'ATP. Ceci représente un moment capital de l'histoire du métabolisme intermédiaire. Mais à Nachmanson revient aussi le mérite d'avoir clarifié le problème de la dégradation de l'acétylcholine, clarification que Dale appelait de ses voeux. C'est d'ailleurs ce problème particulier qui stimula en premier son intérêt pour cette enzyme. Les études concernant l'inactivation de l'acétylcholine vont d'abord porter sur la localisation et la concentration dans les tissus de l'enzyme responsable de la dégradation de l'acétylcholine. Dans les années 30, on connaissait assez peu de choses sur cette enzyme, dont l'existence avait été suggérée par Dale dès 1914. Les travaux de l'école de Lewy, postérieurs à 1926, ont comporté des études sur la localisation et la spécificité de l'enzyme. Pourtant, certains remettent en cause encore la nature fermentaire affirmée par l'école de Lewy et pensent qu'au cours de la destruction de l'acétylcholine intervient en fait un mécanisme d'absorption sur des substances catalysantes. D'autres nient franchement l'existence de l'enzyme dans le sang ou le sérum. Ce ne fut qu'en 1932 que Stedman et Eason démontrèrent que l'acétylestérase présente dans le sérum de cheval semblait être une cholinestérase. En 1938, Nachmanson isole l'enzyme pour la première fois de l'organe électrique de Torpedo marmorata. Cet isolement de l'enzyme va ouvrir la voie à une étude approfondie des caractéristiques physico-chimiques de la protéine. Le terme d'acétylcholinestérase, d'ailleurs, sera de Nachmanson lui-même. Mais si l'on peut expliquer l'intérêt de Nachmanson pour les enzymes de l'acétylcholine, qu'en est-il de son opposition à la théorie neurohumorale dès les années 40? Eh bien, la vitesse d'inactivation de l'acétylcholine s'est vite révélée compatible avec les événements électriques de l'axone géant de Calmar qui avait été décrit par Cole et Curtis en 1939. Dès 1941, il envisagera donc pour cette enzyme, donc après Arcachon, en fait, au moment d'Arcachon, il envisage donc pour cette enzyme et son substrat un rôle dans la conduction nerveuse, intervenant pour modifier la perméabilité membranaire aux ions. L'action de l'acétylcholine ne serait donc pas extracellulaire, mais intracellulaire. Son action sur un récepteur membranaire intracellulaire hypothétique est le mécanisme déclenchant par lequel le gradient ionique, inactif dans la fibre au repos, devient la pile de concentration créant la force électromotrice. Alors, Nachmanson fonde en grande partie son argumentation sur les caractéristiques de l'enzyme hydrolytique. Il avait été frappé, en particulier dès 1937, par son ubiquité. Naturellement, pour pouvoir en inférer un rôle plus général de l'acétylcholine dans l'activité nerveuse, il fallait étudier la localisation de l'enzyme hydrolytique. Les concentrations semblaient d'abord plus importantes aux jonctions qu'au niveau des fibres, ce qui suggérait bien un rôle particulier de l'acétylcholine à ce niveau. Cependant, les études histochimiques qu'il avait menées avec René Couteau avaient montré que l'enzyme hydrolytique était localisée à la surface des membranes liées aux structures membranaires. Les concentrations en enzymes devaient être interprétées en relation avec leur localisation spécifique. Si l'on comparait les taux d'hydrolyse de l'acétylcholine sur des sections de muscles plus ou moins riches en terminaisons nerveuses, on constatait que les sections riches en terminaisons nerveuses avaient une activité enzymatique beaucoup plus élevée et plus élevée que la fibre nerveuse elle-même. L'enzyme étant localisée à la surface, compte tenu de l'extension considérable des surfaces membranaires au niveau des terminaisons nerveuses de la plaque motrice, sa concentration n'était en réalité que modérément plus élevée au niveau des terminaisons nerveuses, ce qui n'était pas en faveur d'un rôle dans la neurotransmission. Ainsi, en résumé, les expériences de Dell et de Feldberg étaient loin d'avoir le caractère magistral et définitif présenté par les partisans enthousiastes de la jeune théorie. Il n'était pas certain que la libération d'acétylcholine avait lieu après stimulation, qu'elle était bien limitée aux terminaisons nerveuses. On pouvait invoquer moins facilement, il est vrai que pour les expériences de Lewy, l'existence d'artefacts. Même si on admettait les résultats de Dale, ceci ne constituait pas à eux seuls une preuve irréfutable du rôle de l'acétylcholine comme transmetteur, et d'autres interprétations restaient possibles, comme celle de Nachmanson, le biochimiste grand spécialiste des enzymes de l'acétylcholine. Nachmanson n'est pas le seul à envisager une transmission électrique. Il y avait encore évidemment la pique, mais dans les années 20 et 30, des controverses concernant plus spécialement les conditions de l'excitabilité l'opposant directement aux physiologistes de Cambridge, Case Lucas, puis Rushton, qui mirent directement en cause ses cours d'excitabilité et sa fameuse loi de l'isochronisme. Elles vont l'opposer également à Dell, et on a vu qu'il va ainsi proposer une théorie mixte, l'acétylcholine jouant un rôle d'amorce. Mais surtout, il y eut Eccles, qui lui aussi va proposer une théorie mixte. John Eccles était alors l'un des élèves qui travaillait dans le laboratoire de Sherrington à Oxford depuis 1925, et Eccles s'intéressait au décours temporel des réflexes. Il aborda la chronologie de la transmission au niveau du système nerveux autonome avec Geoffrey Brown, étudiant sur le nerf vague la sommation des effets de deux influx séparés dans des intervalles de plus en plus courts. Brown et Eccles pensèrent pouvoir évaluer le temps nécessaire à la synthèse du médiateur. Ce temps de formation du médiateur devait être très court, ce qui impliquait plutôt l'existence d'un stock de médiateurs préformés. Mais ce temps court contrastait avec le temps plus court encore de franchissement des synapses que Eccles avait, par l'étude des périodes latentes des réflexes, lui-même évaluées. Ceci va conforter longtemps Eccles dans l'idée, partagée par les opposants à la théorie chimique, que les transmissions rapides, comme les transmissions ganglionnaires ou neuromusculaires, ne pouvaient absolument pas être de nature chimique. Nous arrivons donc à l'épisode d'Arcachon. Pour lever toutes ces ambiguïtés, il fallait montrer le neuromimétisme parfait de l'acétylcholine. Selon la théorie neurohumorale, le médiateur devait reproduire exactement l'excitation du nerf. Cette identité d'action, si elle était montrée, aurait été un argument très important pour l'hypothèse de la neurotransmission chimique. Or, cette preuve était très difficile à apporter. L'injection d'acétylcholine ne provoquait que des contractures musculaires, et c'est ici qu'intervient Alfred Fessard. Alors, comme on l'a dit dans la conférence précédente, on doit à Alfred Fessard d'avoir véritablement renouvelé la neurophysiologie française d'après-guerre. Cependant, une part importante de sa vie scientifique propre se déroule avant cette période. Formé aux sciences physiques, il suit les enseignements de Louis Lapicque et de Paul Portier à la Sorbonne et apprend l'électromyographie à Sainte-Anne, ce qui va éveiller son goût à la fois pour la neurophysiologie et pour la psychophysiologie. Toute sa vie sera située entre ces deux pôles, entre l'analyse des mécanismes nerveux élémentaires et leur compréhension physiologique, entre les réponses élémentaires des nerfs et les fonctions supérieures des centres, entre biophysique et psychophysiologie. Ceci explique l'exceptionnelle amplitude de son œuvre, à la fois intégrative et microphysiologique. Il est ainsi reconnu comme un des pionniers d'électroencéphalographie clinique en France. Il montrera notamment avec Durup que les variations du rythme alpha, onde qui caractérise l'état de repos chez l'homme normal, sont conditionnables en 1935. Mais il est aussi très tôt fasciné par les travaux de l'américain Gasser. Il est le premier en France à enregistrer avec Daniel Auger un potentiel d'action nerveux. À partir de 1927, il poursuivra chez Henri Pierron des recherches sur la neurophysiologie des sensations. Les résultats de l'école de Cambridge l'amenèrent à étudier l'activité rythmique des nerfs isolés sur laquelle il consacrera sa thèse de doctorat en sciences en 1936. Alors que la physiologie est encore dominée par les conceptions chronaxiques de Louis Lapicq, Fessard ambitionne depuis longtemps une entrée dans l'ère de la microphysiologie nerveuse, dans la lignée de l'école de Cambridge. Il introduit ainsi l'oscillographe cathodique au Collège de France en 1931. Il met en évidence avec Brian Matthews les potentiels synaptiques médulaires, assimilant ainsi la neurotransmission à une réexcitation. Dans le domaine de l'excitabilité, il décrira des prépotentiels qui, lorsqu'ils atteignent un certain seuil, aboutissent à la création d'un potentiel d'action propagé. Il s'attachera à montrer la généralité de la réponse en tout ou rien des éléments nerveux et à l'analyse systématique de la forme des potentiels d'action. Ses travaux sur l'excitabilité l'amenèrent donc à s'intéresser aux organes électriques de Torpedo, qui lui apparaissent comme des modèles expérimentaux idéaux pour l'analyse des mécanismes de la bioélectrogénèse au niveau élémentaire, c'est-à-dire l'apparition de forces électromotrices dans les tissus vivants et de la réexcitation. Alors, il existait une littérature déjà considérable sur les caractéristiques anatomiques et électriques des organes électriques de certains poissons, accumulées depuis depuis le XVIIIe siècle, en fait. Et après les travaux de Galvani, l'intérêt des physiologistes pour ces poissons se trouva renforcé. L'organe électrique est formé de compartiments contenant chacun des plaques électriques, électroplaques, qui sont arrangées en colonnes. Et chacune de ces électroplaques développe un potentiel comparable à celui trouvé dans les fibres nerveuses ou musculaires. C'est leur association en série, comme dans une pile voltaïque, qui permet de développer un haut voltage. Elle constitue donc un matériel de choix pour l'étude de la physiologie nerveuse et musculaire. Et Dubois-Raymond, par exemple, passa une grande partie de sa vie à l'étude de ces poissons électriques. Lors d'études sur les propriétés rythmiques de la matière vivante et l'excitabilité rythmogène, Alfred Fessard et Daniel Auger avaient déjà utilisé l'organe électrique de la torpille. On a vu qu'Annette Marnet et David Nachmanson avaient aussi montré, en 1937, l'extraordinaire concentration de cholinestérase sur ce matériel, qui fut obtenue d'ailleurs grâce à Fessard, qui était alors directeur de l'école des hautes études. Ils purent confirmer cette donnée enzymatique sur d'autres spécimens dans les années qui suivirent. Et de leur côté, Daniel Auger et Alfred Fessard avaient étudié l'effet de l'ésérine sur le potentiel d'action. Alors, il faut comprendre cet intérêt et l'enjeu du mode d'action de l'ésérine pour la question de la neurotransmission. Une condition de possibilité de la transmission chimique était la destruction donc rapide de l'acétylcholine par la cholinestérase. Si cette enzyme était inhibée par l'ésérine, cela devait se traduire par une stimulation répétitive par l'acétylcholine de la cellule postsynaptique, mais cette réponse était très difficile à mettre en évidence électriquement. Eccles, par exemple, pensait que l'accumulation d'acétylcholine était responsable de la dépolarisation prolongée de la fibre musculaire et que la contraction lente était identique à la contracture produite par injection artérielle d'acétylcholine et parvenant au ganglion. Mais comme l'excitation initiale n'était pas prolongée par les érines, celle-ci était due à une transmission électrique. Donc, selon Eccles, l'acétylcholine ne pouvait pas être le seul facteur de la neurotransmission. Il y aurait un double processus de transmission, à la fois électrique rapide et chimique plus lent. Donc en 1937, veille d'Arcachon, Eccles restait encore partisan de la théorie mixte. Le potentiel d'action présynaptique était responsable d'une excitation initiale brève à la jonction neuromusculaire et au ganglion sympathique, et la substance neurotransmettrice, l'acétylcholine, était responsable de la dépolarisation résiduelle prolongée. Alors pour lever toutes ces ambiguïtés, il fallait montrer que l'application au niveau postsynaptique reproduisait exactement la réponse électrique postsynaptique obtenue par stimulation du neurone présynaptique. Il fallait donc accéder au niveau postsynaptique et montrer que l'acétylcholine était directement électrogène. La possibilité d'une action dépolarisante, c'est-à-dire électrogène de l'acétylcholine, avait été envisagée depuis longtemps, notamment par Monnier et Dubuisson en 1934, mais il faut rappeler qu'à cette époque, avant les travaux de Koeffler et de Katz, le potentiel de plaque motrice n'était pas encore mesurable, ni même clairement localisé, en l'absence de techniques utilisant donc des microélectrodes intracellulaires. C'est au vu de cette situation que Fessard et Nachmanson décidèrent de vérifier si l'acétylcholine injectée dans l'organe électrique était capable de produire une dépolarisation, c'est-à-dire avait une action électrogène. Ils invitent donc un des proches collaborateurs de Dale, Feldberg, qui savait injecter de l'acétylcholine de manière à ce qu'elle accède au niveau cellulaire, à les rejoindre à Arcachon. Les trois auteurs montreront que les injections d'acétylcholine dans l'organe électrique perfusé avec une solution contenant de faibles concentrations d'ésérine pouvaient effectivement générer des potentiels. Alors même si cela confirmait bien que le nerf de l'organe électrique était cholinergique, et que l'acétylcholine était électrogène, cela n'impliquait pas que cette action fût limitée à la synapse, au niveau de la transmission, et ici, bien sûr, les interprétations de Nachmanson, de Feldberg, vont différer. Nachmanson va postuler que l'acétylcholine commande la propagation de l'influx grâce à l'action intracellulaire, alors que Feldberg lui attribue le rôle de signal de communication intercellulaire. Et il est significatif de constater que l'article fut ultérieurement publié dans le Journal of Physiology en 1942 par Feldberg, ou Fessar Feldberg, sans mention du nom de Nachmanson. Et ceci, semble-t-il, sans que Fessar, qui était coupé du monde à cause de l'invasion allemande en France, n'ait pu donner son accord. Quant à Nachmanson, il avait dû quitter la France en 1939, un peu avant l'invasion allemande, et rejoindre ainsi le laboratoire de Fulton, l'université de Yale, après un court passage chez Hopkins. Donc si l'intérêt et la signification historique de l'expérience sont incontestables, elles ne représentent pas la preuve définitive de la transmission neuro-humorale, du moins telle qu'elle était exposée par l'école de Dale, et ainsi que le soulignera Jean-Pierre Changeux, les trois auteurs apportent la première démonstration directe que l'application de l'acétylcholine sur une membrane biologique peut entraîner un changement de ses propriétés électriques. L'organe électrique convertit le signal chimique en signal électrique. Alors, très brièvement, donc pour conclure, que se passe-t-il après Arcachon? Qu'en est-il de Fessard, de Nachmanson et de Feldberg? Eh bien, Fessard dut revenir pendant la guerre à des études d'électromyographie et il attaquera directement donc la théorie chronaxique de Lapik. Et selon lui, les causes de cet échec des conceptions chronaxiques sont multiples, insuffisance instrumentale, travaux sur des systèmes hétérogènes, inversion des causes et des effets de la neurotransmission, enfermement dans un mode unique d'explication, multiplication des hypothèses ad hoc, inférence à partir d'un modèle neuromusculaire trop simpliste, absence de théorie véritable de l'excitation ou de loi au-delà des lois de l'excitabilité. Donc, après la guerre, Fessard sera en mesure de réaliser son ambition régénératrice avec la création donc, de l'unité CNRS. Nachmanson, lui-même, restera donc partisan jusqu'au bout de la théorie électrique, mais son grand mérite est d'avoir pu, donc, au-delà de l'isolement et de la caractérisation des enzymes de l'acétylcholine, de concevoir le rôle de l'ATP comme source d'énergie commune pour les réactions endergoniques de la cellule, mais c'est un travail de biochimiste. Quant à Feldberg, eh bien, il continuera la polémique avec Eccles qui va même améliorer son hypothèse électrique, c'est sa fameuse théorie des eddy currents, en s'inspirant du modèle de synapse artificielle qui avait été proposé par Angélique Arvanitaki et auquel elle avait donné le nom des FAPS. Alors on ne peut comprendre le déclin, évidemment, de la théorie électrique à partir des années 50 sans se référer au contexte international, et que travaux de Eccles, de Koeffler, de Katz, ceci c'est la suite de l'histoire de la neurotransmission, mais aussi, et pour conclure, aux travaux réalisés à l'Institut Marais. Et c'est dans ce nouveau contexte électrophysiologique, effectivement, en même temps que les nouveaux programmes de physiologie cérébrale, que toute une microphysiologie des éléments excitables va se développer à Marais. Et en ce qui, évidemment, je pense que d'autres conférenciers vont en traiter, mais juste en ce qui concerne la transmission cholinergique, il faut insister, pour terminer, sur le rôle capital de Ladislav Tok. Nachmanson continuera à utiliser Torpedo, mais ce modèle sera plus ou moins abandonné pour être ensuite réutilisé ailleurs, par exemple par Whittaker, comme modèle pour l'étude de la transmission cholinergique au niveau cellulaire et moléculaire. Et à l'Institut Marais, Aplysia va avoir tendance à remplacer Torpedo. La complexité de la neurotransmission cholinergique sera en effet révélée par l'existence de synapses cholinergiques inhibitrices chez les cellules ganglionnaires de cet animal. La preuve de l'action inhibitrice hyperpolarisante de l'acétylcholine fut montrée par Ladislav Tok et Hersch Kenschenfeld. En fait, l'influx du même interneurone exerçait une action excitatrice sur certaines cellules et inhibitrice sur d'autres, et les deux actions utilisent l'acétylcholine. Un neurone, en utilisant le même médiateur, peut posséder des synapses excitatrices et inhibitrices. L'action excitatrice ou inhibitrice d'un médiateur est donc liée aux propriétés de la substance réceptrice et non au médiateur lui-même. Alors ceci, bien sûr, mis le fameux principe de Dale, un neurone, un neurotransmetteur, définitivement à mal. Alors le modèle, pour terminer, je dirais que le modèle de l'aplysie sera repris par Eric Kandel, qui va qui va apprendre l'animal, selon ces termes, à marais, et enfin l'isolement du récepteur de l'acétylcholine représentera certainement une autre contribution française importante à la transmission cholinergique. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Dupont. Nous avons quelques minutes pour quelques questions ou remarques. John ?
En ce qui concerne le fameux deux articles fameux,
le premier article de Feldberg, Fessa et Nachmanson, le petit dans les proceedings of the Physiological Society, l'article de 42 qui est écrit par Feldberg en Angleterre, c'est vrai qu'il a mentionné Nachmanson dans une note qui suivait. Il disait que les deux, c'est-à-dire Feldberg et Fessard, voulaient inclure les résultats biochimiques de Nachmanson, mais lui, il avait préféré les publier séparément aux États-Unis. D'accord. Et c'est vrai que Nachmanson a publié ses résultats biochimiques à peu près dans la même année que la première note, c'est-à-dire 39. Il a suivi cela avec d'autres études. Alors, c'est une histoire un peu difficile à comprendre, mais Nachmanson était bien mentionné par Feldberg dans cet article, le plein article.
Mais pas dans les...
Non, il n'était plus auteur. Okay.
J'ai l'article là, si les gens veulent.
Moi, je voudrais faire une petite réminiscence historique. Vous avez tout à l'heure parlé de la grande difficulté pour convaincre les tenants de la transmission électrique, de la nature chimique de la transmission. Vous avez parlé notamment de la rareté de nos et des gaz. Je dois dire qu'il y a, et c'est un exemple de l'entêtement, difficulté de convaincre les physiologistes, nous connaissons tous, mais le Rentenau, à une époque, a repris les expériences de perfusion du ganglion cervical supérieur, et voilà son raisonnement. Quand je commence à expérimenter, je trouve dans le liquide de perfusion beaucoup d'acétylcholine. Plus je deviens expert dans la manipulation de ma préparation, je vois la quantité d'acétylcholine diminuer. Je deviens très très raffiné, il n'y en reste plus que des traces. Je suis convaincu que si je n'avais rien fait, il n'y aurait jamais eu d'acétylcholine libérée. Et il l'a publié. C'est assez extraordinaire comme façon. Une toute petite remarque, monsieur. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais on peut parfaitement déceler des potentiels de plaque motrice sans recours aux microélectrodes. La grande préparation de Steve Kuchler était une dissection admirable, et on n'a pas besoin de ça. Dans certains muscles, on peut parfaitement savoir où sont les plaques et déceler sans aucune difficulté. La mise en évidence n'est pas liée à la microélectrophysiologie.
Mais la localisation...
Pas du tout, vous pouvez aussi le faire. Ne serait-ce que dans l'admirable dissection de Steve Kuchler avec une fibre nerveuse, c'est sous les yeux.
Non. Oui, si mes souvenirs sont bons, je crois que Fessard a écrit une revue, je crois, en 1952 sur la théorie de la neurotransmission. Alors, est-ce qu'il mentionnait
Posternak
en 50?
C'est pas avec Posternak.
Fessard et Posternak, c'est ça. Alors, est-ce qu'il parlait de la torpille? Est-ce qu'il présentait ses propres expériences dans sa discussion?
Il faudrait vérifier. En tout cas, c'est une revue très ample, qui fait vraiment le point sur la question. Donc, probablement, là, il faut vérifier, mais probablement...
Oui, c'était une revue qu'il a faite, Yves Laporte s'en souvient certainement, un rapport à la société de... Ça s'appelait l'Association des physiologistes de langue française. C'est comme ça que ça s'appelait à ce moment-là. Et cette revue a été faite en collaboration par Alfred Fessard et Posternak, et Jean Posternak. Je vous signale que Jean Posternak vient de mourir. hier. Ils ont fait cette revue, et alors dans cette revue, il y avait bien la dualité transmission électrique, transmission chimique. Ils avaient vraiment insisté, en particulier pour le ganglion, les ganglions végétatifs, c'était la transmission chimique, et pour les synapses centrales, spinales, à ce moment-là, c'était tout de même la transmission électrique. Personne ne veut prendre la parole? Eh bien, dans ces conditions, il me reste à vous remercier, Lupon, pour votre excellent exposé, et je crois que nous avons une pause. Très bien. Une pause d'un quart d'heure.